Bonjour et bienvenue à Tous aux oiseaux, la balado-diffusion qui vous parle des oiseaux du Québec en français. Gaspard Tanguay-Labrosse au micro, cette balado-diffusion est une production de Québec Oiseau. Le mois de décembre est souvent pour les ornithologues amateurs une période un petit peu plus tranquille, alors que le nombre d'espèces présentes dans nos régions va atteindre son point le plus bas pendant environ 3 mois. Cette année, les oiseaux qui restent vont nous permettre de nous réjouir un petit peu pendant une période des fêtes un peu plus tranquille aussi. Profitez-en pour sortir et chercher les oiseaux boréaux qui semblent avoir descendu cette année. On parle de fringillidés, les jaseurs boréaux, gros bec errant, dur bec des sapins, etc. Heureusement, il y a une activité que moi j'associe avec Noël depuis quelques années qui semble être permise sous certaines conditions, le recensement des oiseaux de Noël. Donc, je souhaite à tous ceux qui vont faire le recensement cette année, en décembre et en janvier, vraiment un joyeux recensement des oiseaux de Noël. On va essayer d'en parler au prochain épisode qui va sortir en janvier d'ailleurs, pour que si vous ne connaissez pas cette activité merveilleuse, vous puissiez en apprendre un petit peu plus. Mais tout d'abord, pour ceux qui reçoivent la revue Québec Oiseau à la maison et qui l'ont déjà lue, peut-être que vous la gardez aussi pour les vacances de Noël, donc pour ceux qui l'ont et qui l'ont déjà lue, vous aurez remarqué qu'on a dévoilé les grands gagnants du concours annuel de photos d'oiseaux de Québec Oiseau. Alors ne reculant devant rien et pas devant les accusations de convergence, la balado a obtenu une entrevue exclusive, si on veut, avec Amélie Gagnon, pour vous présenter la photographe qui est derrière ce cliché de canard branchu qui a été sélectionné par le jury pour gagner le premier prix. Les parents en manque d'idées éducatives à offrir à leurs enfants qu'ils veulent initier à l'ornithologie pour Noël peuvent maintenant se tourner vers le livre « Nos oiseaux » d'Éric Dupont, publié chez Marchand de feuilles. Monsieur Dupont a été très généreux de son temps pour nous présenter l'idée derrière le projet et nous expliquer à qui s'adresse le livre. Si vous l'avez vu passer sur votre fil d'actualité et que vous vous demandez un peu de quoi il retourne, vous allez adorer écouter ce qu'il a à nous dire sur son livre, sur ses idées, avec à la clé en plus une réflexion philosophique sur la place de nos oiseaux dans notre imaginaire collectif. Finalement, pour compléter cet épisode bien chargé, on va avoir la suite de notre discussion sur les mangeoires d'oiseaux avec Camille Dufresne et on va répondre à une des questions qui est le plus souvent posée sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'il faut donner à manger aux oiseaux? Quelles graines acheter? Quelles graines leur donner? Ces conseils détaillés pourraient vous éviter bien des tracas et vous assurer de maximiser le plaisir que vous aurez à utiliser vos mangeoires et à regarder les oiseaux se régaler. Alors, je rejoins au téléphone à Québec Amélie Gagnon. Amélie est la gagnante pour l'année 2020 du concours de photos de Québec Oiseau. Vous pouvez trouver sa photo dans la revue de l'hiver 2020. Bonjour Amélie, d'abord merci d'accepter de nous parler aujourd'hui.
Ça fait plaisir.
Alors Amélie, je vais juste faire une petite description de ta photo. C'est une photo d'un canard branchu. Alors évidemment, on l'a tous très bien en tête, l'oiseau, peut-être le plus beau de nos canards. Et là, ce qui est vraiment intéressant, et j'imagine c'est ce qui a charmé finalement le jury du concours. Bon, au-delà, évidemment, les couleurs sont super, la lumière est très, très belle. C'est le fait que le canard nous est présenté de face. Donc, d'une certaine façon, tu l'as dépouillé de toutes ces belles couleurs, parce que ce n'est pas l'angle où on est habitué de le voir.
En effet.
Donc, parle-nous peut-être un petit peu du contexte dans lequel la photo a été prise.
La photo a été prise à la base de plein air de Sainte-Foy. Donc, ça fait quand même déjà quelques années. De mémoire, je crois que c'est en 2017.
Ah oui.
Ça m'a pris quand même du temps à réussir la photo. C'est vraiment ce que je recherchais en tant que cliché. Mais il y avait tellement d'autres canards avec. Il y avait d'autres branchus femelles. Il y avait des colverts aussi. Donc, c'était vraiment pas évident de ma souris qui soit dégagée finalement là. Puis j'étais couchée vraiment sur le ventre au sol. C'est vraiment des prises de vue que j'aime beaucoup au ras de l'eau. C'est ce qui fait aussi que l'angle est impressionnant là, parce qu'on voit l'eau, mais on voit aussi le background qui est vraiment flou avec les couleurs d'automne. Je trouvais ça vraiment, vraiment joli.
Oui, puis là, on est vraiment, on le regarde des yeux dans les yeux. On est à la hauteur vraiment de la tête du canard. Donc ça, c'est parce que tu étais couchée que tu as réussi à faire cette photo-là.
C'est ça, oui. J'avais apporté une bâche que j'ai mis par terre, puis je me suis couchée vraiment sur le sol, puis j'ai attendu le bon moment.
Ah, donc, c'était vraiment planifié de le prendre comme ça, de face, là?
Oui, oui.
Et puis, ça fait combien de temps que tu fais de la photographie d'oiseaux?
J'ai commencé la photo paysage-portrait, je te dirais à peu près en 2010. Puis c'est en 2011 que j'ai vraiment commencé J'ai rencontré des photographes dans les différents parcs urbains à Québec qui m'ont vraiment initiée à ça, qui m'ont pris un peu sur leur aile, là, puis ils m'ont apporté dans plusieurs parcs de Québec. Puis c'est là vraiment j'ai pogné la piqûre, comme on dit, là.
Puis lorsqu'on réussit une photo comme ça du canard branchu, est-ce qu'après on continue? Est-ce que tu retournes encore régulièrement pour prendre des photos de cet oiseau-là?
Je me lasse jamais parce qu'on a quand même la chance au Québec d'avoir 4 saisons. Donc, c'est toujours des choses qui reviennent, mais c'est toujours des choses différentes parce qu'on a hâte à l'hiver, on a hâte pour voir les hiboux, on a hâte après ça, bon, chaque espèce, chaque saison. Mais je te dirais qu'avec un bébé à la maison, j'ai pas vraiment le temps ces temps-ci d'avoir de la photo.
Ou sinon, il faut prendre des photos du bébé, disons, ou par la fenêtre quand il dort.
C'est ça, ouais. Mais je suis allée quand même une fois ici proche de la maison, là, mais ça me manque beaucoup de faire de la photo. Mais je te dirais que mon modèle, là, c'est vraiment elle en ce moment.
Oui, j'imagine bien. Mais donc, ça va revenir de toute façon. Là. Ben écoute, merci beaucoup d'avoir accepté de nous parler aujourd'hui. Félicitations, évidemment, pour le concours. Et puis, j'invite tout le monde, en tout cas, à aller regarder cette photo-là qui est vraiment intéressante. Là. C'est pas un angle auquel on est habitué pour voir le canard en question.
Ben, je te remercie d'avoir pris le temps aussi avec moi ce matin. C'était bien plaisant.
Alors, je retrouve maintenant Éric Dupont, qui vient tout juste de publier chez Marchand de Feuilles le livre « Nos oiseaux » avec des illustrations de Mathilde Cinq-Mars. Éric Dupont, vous êtes écrivain, chargé d'enseignement à McGill, récipiendaire de nombreux prix littéraires. Merci d'avoir accepté de faire cette entrevue avec nous.
Ça me fait plaisir, Gaspard.
Alors, on va peut-être commencer par la question que je pose souvent à nos invités ici, à savoir, étant donné que c'est un podcast qui parle des oiseaux, quelle est votre relation à vous aux oiseaux?
Ma relation à moi aux oiseaux, elle est d'abord liée intimement à mon éducation, à certains membres de ma famille qui m'ont initié à l'observation d'oiseaux. Et j'aime bien spécifier observation d'oiseaux pour ne pas parler d'ornithologie, parce que bon, étant enseignant de traduction, je ne crois pas qu'on puisse donner l'un comme synonyme de l'autre, mais bon,
ah oui.
C'est ça. C'est les gens de ma famille qui m'ont initié à l'observation d'oiseaux. Et ensuite, il y a l'auteur aussi en moi, parce que je suis aussi auteur, écrivain, qui considère les oiseaux comme un procédé littéraire, c'est-à-dire parmi beaucoup d'autres. Donc, les oiseaux ont au moins ces deux facettes-là pour moi.
D'accord. Et puis, qu'est-ce qui vous a poussé? Donc, nos oiseaux, là, évidemment, les gens pourraient le consulter en librairie, voir c'est un livre qui est destiné aux enfants. Donc,
Oui. Mon éditrice aime beaucoup dire qu'elle fait des livres pour enfants surdoués.
Oui, parce que c'est très riche, le vocabulaire est très riche. De multiples références. Il y a même un aspect presque philosophique par moment. Là. Peut-être qu'on y reviendra. Mais, donc, qu'est-ce que c'était finalement le but de ce livre-là?
Le but du livre, finalement, c'était pour, je disais à Mélanie Vincelette, qui est mon éditrice chez Marchand de Feuilles, que je voulais faire un album illustré. Je lui dis depuis longtemps. Et il y a un an, elle m'a présenté le projet parce qu'elle avait fait un album illustré avec Anaïs Barbeau-Lavalette, qui portait sur les héroïnes de l'histoire québécoise. Donc, elle me dit, on va demander à Mathilde de Cinq-Mars de faire les illustrations, et puis toi, tu vas faire les textes, le texte à gauche, l'illustration à droite, et puis, est-ce que ça te tente? J'ai dit, oui, bien sûr. Et maintenant, pourquoi est-ce qu'elle m'a demandé ça? C'est parce que dans à peu près tous mes romans, à peu près, je pense que tout ce que j'ai écrit, les oiseaux jouent un rôle important. C'est-à-dire qu'il y a toujours des oiseaux qui sont... qui font partie de l'histoire, qui sont là, qui sont soit des symboles, des vecteurs d'action, etc. Donc, elle savait que je m'intéressais aux oiseaux. C'est pour ça qu'on a choisi ce sujet-là. C'était avant le confinement, évidemment.
Ah oui, donc ça a changé beaucoup de choses parce que ça vient tout juste d'être publié, finalement.
Oui, c'est-à-dire que, bon, le but, c'était de choisir à peu près, elle m'a dit, choisis 50 espèces à peu près. Parce que je l'ai bien averti, je lui ai dit, tu sais qu'on a plus de 200 espèces qui passent au Québec.
Oui, puis j'imagine il y a certaines espèces, enfin, ça doit être assez difficile de faire un album illustré puis d'écrire un texte porteur d'une réflexion poétique ou philosophique, peu importe, ou même humoristique, parce qu'il y a quand même aussi de l'humour dans le livre, par exemple sur les vocalisations différentes du moucherolle des saules et du moucherolle des aunes. Enfin, même les enfants surdoués, disons, c'est un peu rébarbatif peut-être.
Je ne sais pas de quel passage vous parlez.
Non, mais dans le sens que ça aurait été un choix difficile de les intégrer au livre si on veut faire un livre de 200 espèces. Donc, il y a eu un choix.
Effectivement, non. Non, ben, c'est exactement ça qui s'est passé. C'est-à-dire que oui, Pour le choix des espèces, il y a eu beaucoup de critères. C'est un livre destiné à la relation entre l'adulte et l'enfant. Parce que moi, je considère que l'observation d'oiseaux est une histoire de passage. Ça passe par le cœur. Il faut que quelqu'un vous initie à ça. Rares sont les personnes qui, en fait, sont tombées sur l'observation d'oiseaux sans que personne les incite à le faire. Et je voulais rendre hommage un peu à ça, aux gens qui m'avaient donné cet héritage-là, très important, parce que je me rendais compte que quand je voyageais, par exemple, en France, nos amis français et européens en général, pour eux, l'observation d'oiseaux comme ornithologue amateur, ça ne leur dit rien.
Oui, c'est une tradition qui a certaines racines anglo-saxonnes, en tout cas.
Oui, à oui, tout oui. Moins, oui. Exactement. C'est très nord-américain. Donc, pour le choix des espèces, moi, il fallait absolument que le jeune qui prenne ce livre-là, ou auquel on va le lire, puisse avoir le plaisir de reconnaître certaines des espèces qu'il voit dans le livre, mm-hmm. Pour que ça commence un intérêt.
D'accord. Voilà.
Donc, effectivement, toutes les parulines n'y sont pas.
Oui, il y en a peut-être, je pense, une espèce, je crois, de paruline masquée.
Oui, j'ai une paruline masquée. Mais il fallait que, bon, par exemple, l'enfant puisse reconnaître le chant de l'oiseau et qu'il puisse le voir dans son environnement aussi. Mm-hmm. Donc, le labbe pomarin, peut-être pas.
Oui, effectivement. Voilà. Il faudrait des enfants très motivés. Je pense que c'est vraiment une minorité d'enfants qui voudraient faire des excursions pélagiques comme ça.
Sur le Nordic Express, oui. jusqu'à Blanc-Sablon. Peut-être pas, non, effectivement. Donc, il fallait que l'enfant ait la satisfaction de reconnaître soit le chant, soit l'oiseau, comme un carouge à épaulette, mm-hmm. ou un roselin. Ou encore les lois des neiges pour les enfants qui vivent près des haltes migratoires des oies. Pour moi, c'est important que l'enfant puisse avoir cette satisfaction. Oui,
oui, puis il y a quand même aussi, j'avais l'impression, une part quand même de faire rêver les enfants. C'est-à-dire qu'il y a quand même certains oiseaux là-dedans. Il y a un mélange entre des oiseaux qui sont très accessibles. Puis après, bon, vous parlez du harlequin plongeur, du garou d'Islande, qui sont quand même des espèces qui ne sont pas extrêmement fréquentes au Québec et donc qui font quand même, mais qui sont en même temps des très, très beaux oiseaux. Donc, ça permet de faire rêver les enfants une fois qu'on a fait le tour des oiseaux qui sont directement dans notre cour.
Mais c'est exactement ça. Vous avez compris que, bon, on a aussi beaucoup hésité et à la fin, on a renoncé à mettre notre effraie des clochers dans le livre parce qu'elle est trop rare.
Finalement. Ah oui, parce que là, c'est... Donc, vous dites « nos oiseaux ».
Oui.
Lorsqu'on lit le livre, on comprend, en fait, disons, on est dans l'est du Canada, là, de oui. l'Ontario au maritime, plus ou moins. Là, vous oui. avez mentionné plusieurs lieux. Oui. Donc, c'est les oiseaux.
J'ai fait exprès de mentionner, puis là, je le confesse, là, des lieux de la francophonie canadienne.
Oui.
Le nord de l'Ontario, la péninsule acadienne, là où il y a des francophones. Mm-hmm. C'est sûr qu'il y en a jusque dans l'ouest où, effectivement, je n'ai pas de pie dans le livre, mais j'ai fait exprès de ne pas limiter ça au Québec, mais comme vous dites, à l'est du Canada.
Lorsqu'on regarde les catégories aussi, c'est assez amusant, c'est-à-dire qu'il y a des catégories très... vous les classez finalement dans certaines catégories, des catégories assez évocatrices, les maritimes, les grandes voies. Puis il y en a d'autres aussi assez rigolotes, par exemple, ce que l'on mange.
Ce que l'on mange, oui.
Et puis, comment vous avez choisi les catégories? Parce que, bon, comme ornithologue amateur moi-même, je vous avoue qu'il y a des choix qui portent presque à la controverse. Entre autres, par exemple, dans les grandes voies, vous avez décidé d'inclure le carouge à épaulettes.
Oui.
Ou le jet bleu, qui sont des oiseaux qui, pour plusieurs d'entre nous, en tout cas, qu'on n'associe pas aux plus grandes voies du Québec. Alors, c'est vraiment un choix intéressant. Hein?
Non, c'est pas les plus grandes voies, effectivement, mais c'est les voies qu'on entend.
Oui,
okay, donc,
et qui portent, en tout cas.
Et qui portent. Donc, si on prenait tous les chanteurs du Québec et qu'on les mettait là-dedans, peut-être que notre jet bleu, ça serait Éric Lapointe.
Oui.
OK. Donc, on peut pas parler d'une grande voix. On peut pas comparer sa voix à celle de Marc Hervieux ou à celle de Marie-Nicole Lemieux, mais on peut pas dire le contraire. On l'entend, sa voix.
Oui, donc... oui, absolument. Elle est grande, en tout cas en intensité.
Oui, exactement, c'est ça.
Oui, c'était assez intéressant, la division. Il y a une autre chose aussi. Bon, on voit quand même, vous êtes d'origine gaspésienne, vous êtes né en Gaspésie, vous avez grandi en Gaspésie, puis on voit quand même que la Gaspésie est un peu représentée dans le livre. Est-ce que c'était important pour vous? Parce qu'on voit, par exemple, la mouette tridactyle, le fou de bassin, l'harlequin plongeur qui est une espèce quasi une spécialité toute gaspésienne. Là. Donc, est-ce que c'était vraiment important pour vous, lorsque vous avez pris ce livre-là, de parler un peu de vos origines gaspésiennes ou enfin de votre propre rapport quand vous étiez enfant aux oiseaux?
Oui, bien sûr, parce que, bon, on y a une faune aviaire un petit peu différente en Gaspésie. Ben, là, vous avez parlé de l'arlequin. Il y a aussi le petit pingouin, qui est peut-être un de mes oiseaux préférés, et qui est d'ailleurs une des plus belles images. On dirait qu'elle l'a senti, Mathilde, parce que c'est une des plus belles images que je trouve qu'elle a faites, l'un des plus beaux dessins. Le petit pingouin qui, quand moi, j'étais petit, il y en avait moins. De cet oiseau-là. Ah, c'est-à-dire qu'il ne remontait pas aussi loin dans le fleuve. Là. Mais au fil des ans, il s'est mis à remonter jusqu'à l'île aux lièvres, ensuite jusqu'à... et même plus haut.
Parce qu'il y a maintenant même une colonie dans le coin de l'île aux grues, en tout cas, donc jusque en face presque de Montmagny maintenant.
Oui, c'est ça. Donc, il y avait beaucoup d'oiseaux gaspésiens. Mais en même temps, pas seulement des oiseaux gaspésiens, parce que, comme je le disais, il faut que l'enfant qui est en Abitibi puisse trouver aussi son...
Oui, je sais.
Et aussi, on parlait de la mouette tout à l'heure. Pour moi, c'était important peut-être de faire une petite mise au point pour les jeunes qu'à Montréal, on n'a pas vraiment de mouette.
Oui, il n'y a pas de mouette, effectivement, c'est très, très rare. Qu'est-ce que ça a été votre processus d'écriture dans l'ordre des oiseaux? Parce que moi, bon, je ne l'ai pas lu comme un enfant ou comme un parent où l'enfant choisit un peu un oiseau au hasard. Je l'ai lu comme un adulte, un peu ennuyeux, c'est-à-dire que j'ai pris la page 1 puis je me suis rendu au bout du livre. Puis, il y a souvent des rappels à des oiseaux qu'on a vus avant dans le livre. Puis j'avais l'impression un peu que vous avez fait quelque chose qui se lit très bien, probablement en prenant un oiseau au hasard, mais presque comme un roman, c'est-à-dire que vous avez des rappels au vacher à tête brune, qui est un des premiers oiseaux que vous présentez. Donc, il y a une espèce de continuité ou une ligne directrice. Est-ce que c'était voulu?
Oui, bien sûr que ça l'était. Bon, il faut dire que le vacher à tête brune, il était au centre d'un roman intitulé Bestiaire, un roman autobiographique que j'ai fait paraître en 2008. Donc, c'était clair que notre vacher se retrouverait dans cette collection-là, mais aussi parce que beaucoup d'espèces qui sont mentionnées dans l'album sont des espèces qui doivent composer avec les activités du vacher. Mm-hmm. C'est-à-dire que soit que les femelles les oiseaux élèvent les petits du vacher, ou qu'ils reconnaissent les œufs du vacher et s'en débarrassent, ou qu'ils parviennent à chasser la femelle du vacher en houspillant, de sorte qu'il était important de le mettre au début. Et il n'y a pas de catégorie, le vacher. Il est...
Oui, il est le seul dans sa propre catégorie.
Il est comme dans un jeu de cartes, le Joker.
Oui.
OK? Et lui, on le met au début parce qu'il parasite, il peut parasiter les nids. Et je ne crois pas qu'on ait un autre oiseau au Canada qui fasse.
En tout cas, au Québec, j'ai l'impression, comme vous, que c'est le seul oiseau, effectivement, qui est parasite de d'autres oiseaux.
Puis s'il est là aussi, c'est parce que c'est le genre d'activité que l'enfant va peut-être trouver fascinante.
Oui.
OK? L'histoire de pondre un œuf dans le nid d'un autre oiseau et que l'autre oiseau élève le petit, l'oisillon, ça, pour l'enfant, ça va quand même éveiller sa curiosité. Là. Je ne peux pas croire.
Oui, j'imagine. Mais effectivement, c'est un des comportements très particuliers. Si vous le permettez, je vais peut-être lire un extrait de La Grive solitaire, qui évidemment, elle, a bien sa place dans les grandes voies du Québec. « Tu te promènes dans un petit boisé le soir. Soudainement, un chant descend de la cime des conifères. On dirait une flûte de verre. C'est un son pur comme un rayon de lune avec une pointe de nostalgie assumée. C'est la grive solitaire. » Alors, évidemment, moi je trouve ça très beau, c'est très poétique, mais le livre a vraiment cette espèce de mélange fascinant entre des extraits qui sont comme ça, très poétiques, où vous parlez même de vos souvenirs d'enfance, des extraits qui sont plus scientifiques, où vous parlez de caractéristiques de comportement que les oiseaux adoptent, puis même des moments assez humoristiques, où il y a des choses qui sont assez amusantes, finalement. Comment êtes-vous arrivé à cette espèce de mélange-là, entre ces éléments-là différents?
Ce mélange-là, il est un peu le reflet de ma relation avec les oiseaux, finalement, parce que je ne suis pas un scientifique.
Mm-hmm. Il y a quand même de la recherche derrière tout ça.
Il y a de la recherche, et bien sûr, j'ai mes sources comme le site de l'Université Cornell, Birds.
Oui, All About Birds.
Oui, qui est vraiment excellent. Aussi Québec Oiseaux, effectivement, mes propres observations. Mais je ne voulais pas trahir ou je ne voulais pas être infidèle à ma relation avec les oiseaux. Mm-hmm. Et puis au début, justement, les textes que j'écrivais étaient très secs, très scientifiques, de sorte que mon éditrice a dit, écoute, a dit, est-ce que ça vaut vraiment la peine qu'Éric Dupont écrive, l'écrivain qu'on connaît, Éric Dupont, écrive un album sur les oiseaux si ça peut être remplacé par une notice Wikipédia? Ou par... Oui. Elle l'a mis comme ça, entre ces termes.
Même une notice Wikipédia, disons, adaptée aux plus jeunes.
C'est ça, oui. Puis effectivement, elle avait raison. Il faut une valeur ajoutée qui soit irremplaçable. Il faut un supplément d'âme qui soit Éric Dupont, point final. Donc, c'est ça que j'ai voulu inclure ou que j'ai voulu mettre dans le livre. Et ce qui a beaucoup aidé, c'était, comme je vous disais tout à l'heure, le premier confinement qu'on a eu avec, au début de la pandémie, quand on nous a tous renvoyés chez nous. Et que j'étais dans un état, comment disons, j'étais abasourdi par tout ça. J'étais.
Oui, comme beaucoup. Hein.
Je me réveillais le matin. Chaque matin, quand je me levais, je passais 15 secondes à m'expliquer ce qui se passait parce que ma conscience refusait la réalité. Pendant ces semaines plutôt moroses, l'écriture de ces textes-là était comme une évasion, était comme un retour vers ce que le monde avait été, que la pandémie m'avait enlevé. Donc, la possibilité de sortir, d'aller dans la forêt, d'écouter l'oiseau, les rapports humains aussi. C'était peut-être pour me consoler, un moyen pour moi de convoquer ces gens-là dans mon espace confiné. Ces gens-là, j'entends par là mon oncle Jean-Rémy, ma grand-mère, mon père, tous ces gens.
Oui, donc vous parlez quand même à plusieurs reprises dans le livre des anecdotes familiales liées aux oiseaux.
Oui.
Et puis justement, en parlant de parce que vous parlez de science, il y a un détail, moi, qui m'a beaucoup amusé, c'était la présence des noms latins. Alors, tous les oiseaux ont leur nom latin.
Oui.
J'ai trouvé ça assez savoureux, c'est-à-dire que même des ornithologues que je connais qui sont excellents, chevronnés, par moments, connaissent même pas les noms latins des oiseaux. Alors, je me suis demandé, juste par curiosité, qu'est-ce qui vous avait incité à mettre le nom latin d'oiseau en dessous du titre? Je trouvais ça très drôle.
Je l'ai mis parce que bon, d'abord, on met les noms latins pour ne pas confondre l'espèce, pour ne pas qu'on se mêle entre l'appellation populaire ou l'appellation qui est tirée de la nomenclature officielle. Bon. Mais je les ai mis là au début, puis j'ai dit à Mélanie, Vincent, on verra si on les garde ou pas. Donc, on a soumis les textes à un groupe témoin de parents-enfants, et ils nous ont tous dit garder les noms latins parce que les enfants les considèrent comme des formules magiques.
Ah oui!
Ouais, les jeunes de 10 à 12 ans les voient comme des espèces d'incantations magiques, là, comme Hocus Pocus.
Ouais. S'ils ont été familiers, par exemple, avec l'œuvre de Harry Potter, les formules magiques sont souvent en latin, puis donc il y a un petit peu de ça. Ah, mais c'est vraiment intéressant.
Ouais. C'est pour ça qu'on les a laissés, finalement, c'était pas pour...
Faire comme si c'était un guide officiel de terrain. Non, mais c'est parce que je me demandais vraiment, je trouvais ça très,
mais
très
drôle. Je pense que c'est important aussi qu'un enfant de 10 ans apprenne que les espèces animales et aviaires ont un nom latin et pourquoi elles en ont un. Et le parent, évidemment, que le parent peut l'expliquer à l'enfant, mais je pense que c'est important. Parce que c'est quand même à la base de la systémique, non?
Ah, absolument, absolument. Oui, oui, c'est... Ouais. Non, c'est une démarche intéressante, ça c'est certain. Et puis, une des choses qui m'a frappé en lisant le livre, en fait, vous parlez à un moment d'une histoire où un chardonneret est venu se casser le cou dans votre fenêtre. Et puis, disons, le livre commence aussi par des oiseaux qui sont disparus. Donc, le grand pingouin, la tourte voyageuse, des oiseaux qui ont été exterminés par l'humain. Il y a plusieurs reprises aussi des mentions de menaces environnementales qui pèsent sur nos oiseaux, donc le titre.
Oui.
Et puis, je me suis demandé un peu, est-ce que vous-même, quand vous étiez enfant, est-ce que c'est parce que ça vous, les expériences que vous avez eues dans la nature vous ont rapproché d'une certaine... je ne sais pas, d'un certain lien avec la mort. Est-ce que c'est la nostalgie de votre enfance qui vous a fait faire ça?
Une chose, c'est qu'il y a eu... On a enlevé certains textes parce qu'ils étaient trop violents.
OK.
Le texte sur le faucon pèlerin a été enlevé. On a gardé le dessin, mais le texte a été enlevé. Pourquoi? Parce que son comportement alimentaire, apparemment, avait traumatisé un des petits garçons qui faisait partie du témoin.
Oui.
Non seulement celui-là, mais le comportement sexuel du canard colvert aussi a dû être mis de côté.
Bon, d'accord. Ouais.
Parce que c'est pas très famille, on s'entend. Là,
oui. Même si c'est la réalité de la nature. C'est ça.
Mais moi, je me suis rendu compte, en écrivant mes textes, que j'ai eu... mes parents étaient agriculteurs. C'est-à-dire que, non, mon père vient d'une famille de fermiers, il était policier, mais on vivait près des fermes, on vivait entouré de fermes. Mes grands-parents avaient une ferme, des poules, tout ça. Nous, on avait des animaux. Donc, je savais couper le cou d'une poule quand j'avais 12 ans.
Oui.
Cependant, il faut que je me souvienne toujours que la plupart des enfants ne font pas ça.
Effectivement, oui.
Voyez-vous, donc moi, l'animal mort, le corps de l'animal décédé, je suis habitué à le voir depuis ma tendre enfance. Mm-hmm. Je les ai vus démembrés, je les ai vus ouverts, je sais comment on les élève, comment on les prépare, je sais comment que la poule peut mourir de froid, que la blette peut l'attaquer, etc. Mais 90 % des enfants ne savent pas ça.
Oui, ils pensent que la poitrine de poulet pousse dans les épiceries ou un contact direct, en tout cas, avec la réalité de ce que ça veut dire, par exemple, de manger de la viande.
Là. Oui, et puis la violence des oiseaux non plus. On ne comprend pas que la vie de l'oiseau sauvage est une lutte constante, oui, de tous les instants. Et ça, je voulais le faire comprendre à l'enfant aussi, aux jeunes, que quand les oiseaux chantent, c'est pas pour nous faire plaisir.
Oui.
C'est un chant territorial, c'est un chant... les études ne s'entendent pas pour dire si c'est pour se garantir l'exclusivité sur une femelle ou c'est sur se garantir l'exclusivité sur un territoire. Mais le chant a une fonction identitaire indéniable, ça c'est clair, chez l'oiseau, et agressive aussi. Donc il y a une fonction de défense, de créer un territoire pour l'oiseau. Et là où je veux en venir, c'est que ce qui est un peu ironique est que le chant de ces oiseaux, le bruant gorge blanche, le carouge à épaulettes, la grive, ces oiseaux très, très, très typiques du Québec, de l'Est de l'Amérique du Nord, en viennent à nous aider, les humains, à créer un espace sonore pour notre territoire. Les oiseaux ne le savent pas, mais ils sont l'environnement sonore dans lequel on grandit. Ils sont la trame sonore de notre nature et je voulais attirer l'attention des parents là-dessus aussi, des enfants, que quand on quitte le Québec, quand on quitte le Canada, on les perd, ces bruits-là.
Oui, puis il y en a d'autres qui apparaissent.
Il y en a d'autres qui apparaissent, comme quand je suis au Brésil, d'autres mélodies, d'autres oiseaux qui chantent. Je pense qu'il y a seulement l'engoulevent qu'on peut entendre à Belo Horizonte, au Brésil l'hiver. En France, on entend d'autres chants aussi, les verdiers. Il y a aussi une mésange en France qu'on entend beaucoup, mais qui n'est pas ici. Bon, de sorte que ces chants-là finissent par faire partie de notre identité. On peut essayer, par exemple, de faire entendre le chant du bruit en gorge blanche à une personne qui a quitté le Québec, je ne sais pas moi, il y a 20 ou 30 ou 40 ans. Je vous garantis qu'il va y avoir une réponse émotive. Il va y avoir une expérience proustienne.
Oui, je peux tout à fait le concevoir, oui.
Que ce soit la grive, moi, ce qui me plonge dans cet état-là, c'est oui, le bruant gorge blanche, la grive solitaire, le carouge, son tri.
Ça, c'est le retour du printemps. C'est un des premiers oiseaux qui revient et qu'on entend. Et on est en mars, il y a encore de la neige. Et puis, c'est fantastique. Le carouge, à ce moment-là, est un signe du retour du beau temps. En tout cas, moi, c'est ce que je trouve. Hein.
Oui, ou tu appelles au Québec, puis t'es ailleurs. Disons, moi, tu es en Autriche, en Allemagne. Puis tu appelles quelqu'un au Québec au printemps. Puis là, tu entends le cri derrière la personne qui parle, là, en arrière-plan. Tu entends comme bruit de fond, le carouge. Et là, tu attrapes un mal du pays, mais une sorte de... Oui!
Ah oui!
C'est pour ça que ce que je trouve très intéressant, c'est que ce chant-là, ces cris-là qui sont faits pour établir un territoire pour l'oiseau, établissent le nôtre aussi.
Ah oui,
c'est ça que je veux dire. Oui, c'est là où je veux en venir.
Éric Dupont, c'était vraiment fascinant. Merci beaucoup encore une fois. Donc, juste, je vais répéter, c'est « Nos oiseaux » avec des illustrations de Mathilde Cinq-Mars. C'est disponible dans toutes les bonnes librairies, édité par Marchand de Feuilles. Merci beaucoup d'avoir passé ce temps-là avec nous.
Ça m'a fait plaisir. Amenez les enfants voir les oiseaux.
Oui, ça, c'est le plus important, je crois bien. Je suis d'accord avec vous. Merci beaucoup. Alors, je rejoins maintenant Camille Dufresne pour la deuxième partie d'une chronique sur les mangeoires à oiseaux. Et donc, Camille, que je retrouve à Lennoxville, chez elle, au téléphone. Merci encore une fois d'être là. Et maintenant, on va parler plutôt de qu'est-ce qu'on donne comme type de nourriture. Maintenant qu'on a choisi notre mangeoire, on l'a bien installé, est à un endroit stratégique. Maintenant, qu'est-ce qu'on met dedans?
Maintenant, vous avez acheté votre première mangeoire. Vous vous demandez sûrement quelle sorte de nourriture on peut offrir aux oiseaux. J'ai fait une petite étude, une petite recherche sur l'engouement de nourrir les oiseaux en Amérique du Nord et les chiffres que j'ai trouvés sont intéressants. On dit qu'en Amérique du Nord, 30 à 40 millions de personnes se procurent de la nourriture pour les oiseaux. On dit aussi par Statistique Canada en 2013 que 25 % des ménages canadiens avaient des mangeoires ou des nichoirs.
Oh.
Alors, j'ai trouvé que l'engouement était très intéressant et que ça vaut la peine de se pencher sur le type de nourriture et quels sont les invités qui sont à prévoir dans votre jardin. Alors, au niveau de la nourriture, principalement, ce serait des graines. Il y a toute une variété de graines dont je vais vous parler. Et parlons de suif ou de produits qui comprennent du suif. Alors, dans un premier temps, les graines, si vous avez à installer une seule mangeoire dans votre cour avec un seul type de nourriture, moi, je vous suggère fortement d'acheter du tournesol. Les tournesols, c'est vraiment ça qui vole la vedette aux mangeoires. Il y a plus de 42 espèces d'oiseaux qui s'en nourrissent. C'est un élément, une nourriture très appréciée durant les grands froids parce qu'il y a vraiment une valeur énergétique élevée. Le tournesol a 20 % de protéines et 50 % de lipides. Alors, par période de grand froid, les oiseaux l'utilisent beaucoup. Tout le monde se demande comment faire pour choisir entre ce qu'on trouve sur le marché, le tournesol noir et le tournesol rayé. Juste pour vous donner une idée, il y a 85 % du marché de la nourriture pour oiseaux qui est occupé par la petite graine noire. Pourquoi? Entre autres, c'est parce que la petite graine noire est plus facile à décortiquer pour les oiseaux qui ont un bec fin. Et en plus, les chiffres que j'ai trouvés, c'est qu'une graine de tournesol, l'amande constitue 70 % du volume de la graine, alors que dans le tournesol rayé, elle constitue seulement 55 %. Alors, c'est déjà un meilleur achat pour vous. Ce qui est important, la graine de tournesol, c'est toujours de trouver une mangeoire qui va garder les graines au sec. Vous pouvez aussi cultiver des tournesols. Si vous regardez dans les catalogues de semenciers, on peut se procurer des graines de tournesol qui vont donner des tournesols géants qui peuvent avoir une tête remplie de graines qui peut mesurer jusqu'à 30 cm de diamètre et on dit que chaque plant peut produire 2000 graines. Alors, ça peut être très intéressant d'en mettre dans notre jardin.
En plus, c'est assez joli.
C'est très joli et j'avoue que récemment, j'ai essayé des nouvelles variétés et j'ai un tournesol qui est monté à 12 pieds de haut.
Oh.
C'est assez spectaculaire dans un jardin. Si vous avez à mettre une deuxième sorte de graine, vous voulez une deuxième mangeoire, ben, ce que je peux dire déjà important, c'est que c'est bien plus pratique et plus efficace si on veut offrir plus qu'une sorte de graine, de les offrir dans des mangeoires différentes. L'inconvénient avec les mélanges, c'est qu'un oiseau qui aime les graines de tournesol va aborder une mangeoire avec des grains variés, mélangés, puis il va choisir, lui, dans la mangeoire, ce qui l'intéresse, puis il va jeter le reste à terre. Alors, c'est du gaspillage, et souvent, ça contient des graines qui ne sont pas du tout utiles aux oiseaux, comme des graines d'orge, des graines d'avoine. C'est beaucoup moins consommé par les oiseaux, puis c'est du gaspillage, au fond, pour vous autant que pour les oiseaux. Si vous voulez plus qu'une sorte de graine, vous mettez plus qu'une mangeoire. La deuxième graine que je vous recommanderais, le deuxième type de nourriture, ce serait du millet. Les oiseaux sauvages préfèrent davantage le millet blanc. Et c'est une bonne graine comme nourriture parce qu'il y a 72 % de glucides et 23 espèces d'oiseaux s'en nourrissent. J'avoue que c'est la graine préférée de tout ce qui est bruant, junco, sizerin et rosemain. Surtout si vous prenez la peine de les nourrir au sol. Actuellement, je regarde par ma fenêtre et j'ai fait une petite tentative. J'ai pris une grande dalle de patio que j'ai mis au sol sous les mangeoires. Et en ce moment, je vois à peu près 42 junco, une dizaine de bruants. Et c'est du millet que j'ai mis au sol pour faire une petite tentative, voir si ça fonctionnait. Et c'est un succès fantastique. Les oiseaux lâchent pas la dalle de patio. Alors, c'est quelque chose de facile à aménager.
Tu me fais regretter de ne pas être là. Moi, je regarde par ma fenêtre, puis bien franchement, je vois aucun oiseau.
Ben, c'est ça. Tu étais le bienvenu à venir sur mon balcon comme on a fait cet été.
Oui, c'est ça, mais là, on n'est pas supposé. D'où le son au téléphone, etc. OK, donc, oui. Sinon, à part les types de graines, donc est-ce qu'il y en a d'autres, à part le millet et le tournesol, qu'on peut donner aussi?
Ben, on voit beaucoup le chardon. Mais le chardon demande une mangeoire spéciale parce que ça se prend des petits trous et c'est une graine qui est très dispendieuse. Oui, ça peut être intéressant, mais si vous avez une troisième sorte de graine, moi, je mettrais du maïs. Le maïs, il faut faire plus attention parce que c'est l'humidité, il est très affecté par l'humidité et sa qualité se détériore facilement. Il faut vraiment que ça soit à l'épreuve des intempéries. Et vous pouvez utiliser du maïs concassé. Il y a 27 espèces d'oiseaux qui aiment ça. Il ne faut pas que ce soit des trop grosses mangeoires parce que les oiseaux noirs en sont friands, les jets bleus en sont friands et il faut garder ça pour l'hiver quand les oiseaux noirs sont partis. Mais c'est très riche en glucides, c'est un coût abordable, donc ça fait un grain intéressant. Et vous allez avoir en plus des tourterelles tristes. Il faut juste surveiller pour pas que ça attire les pigeons et pour qu'il n'y ait pas trop de jet bleu. Mais ça peut être une troisième type de graine intéressant.
Oui, on va en reparler dans plus tard quand on va parler des invités à prévoir. Mais bon, on parle des oiseaux noirs puis des jets bleus. Pas qu'on n'aime pas ces oiseaux-là, c'est juste que c'est des oiseaux qui ont tendance des fois à avoir des comportements un peu agressifs envers les autres visiteurs des mangeoires, n'est-ce pas?
Oui, puis aussi, ça peut importuner des voisins. Par exemple, si quelqu'un aime les pigeons bisettes et qu'il se retrouve avec 2 douzaines de pigeons, les pigeons vont faire des fientes un peu partout et ils n'ont pas de distinction, eux autres, entre les voisins et chez vous. Et il y a des gens qui n'aiment pas du tout avoir des oiseaux dans leur cour. Alors, il faut faire attention et les respecter, eux aussi, pour ne pas encourager la venue de grandes quantités de ces oiseaux-là.
Bien sûr. Puis sinon, à part les graines dont tu me parles dans les mangeoires, qu'est-ce qu'on peut donner aussi comme nourriture?
Bien, pour terminer juste les graines, c'est qu'on voit sur le marché, bien, c'est juste qu'il y a toutes sortes de graines sur le marché. J'étais récemment à la coop, pas loin de chez moi, et je voyais des graines d'alpif, de cartame, de colza, et même dans les graines mélangées, il y avait de l'orge, de l'avoine, du blé. Ça, on est intrigué et intéressé des fois, mais j'avoue que c'est pas une bonne idée. Il n'y a pas tant d'oiseaux que ça qui en mangent, et vous achetez ça pour rien, au fond. À la place, justement, comme tu disais, moi, j'offrirais aux oiseaux du suif. C'est très riche pour les oiseaux. C'est très riche en matière grasse, naturellement. Puis, il y a comme 3 types de suif qu'on peut offrir. Le plus simple, c'est d'aller chez le boucher puis de prendre un morceau de gras de bœuf puis de le suspendre dans un filet. L'inconvénient, c'est que quand il fait très froid, ça vient très dur et c'est moins accessible pour les oiseaux. L'autre option, c'est d'acheter ce qu'on appelle des espèces de cubes qui sont composés de suif de bœuf et d'un mélange de graines, souvent. Puis on achète une petite cage grillagée, puis on le suspend. Et la plupart des oiseaux aiment ça. Et ça fonctionne très, très bien. L'autre option, c'est qu'on peut aussi, on peut chercher des recettes. Puis faire un mélange avec du gras, du beurre d'arachide, du maïs concassé. Et on prend une grosse bûche, on fait des trous, puis on beurre les trous avec ce mélange-là. Ça, je vous avoue que c'est un succès assuré. Et même des oiseaux qui habituellement sont insectivores, par exemple... L'an passé, à cette période-ci de l'année, j'ai eu la visite d'une paruline des pins. Et puis, parce que j'ai des grands pins à l'arrière de mon terrain, une forêt avec des grands pins. Et la seule chose qu'elle a faite durant les quelques semaines où elle a été là, c'est manger dans mon mélange de gras. C'était composé de maïs, de semoule de maïs, d'avoine, puis de beurre d'arachide. Et ça a fait fureur. L'oiseau n'était pas en manque de nourriture du tout. Fait que ça peut être intéressant. Maintenant, quels sont les invités qu'on peut avoir à nos mangeoires? Vous avez 2 types d'oiseaux comme tels. Les oiseaux résidents, par exemple les mésanges, les stèles, et de plus en plus la mésange bicolore, les pics. Ça, ce sont les oiseaux que vous allez voir à l'année. Vous avez en plus les oiseaux migrateurs. Là, on peut parler ici des duncos, des suzerains, des roselins. On peut parler aussi de tous les bruants qui nous visitent à l'automne et au printemps. Eux vont apprécier, justement, quand il y a de la nourriture, parce que ça les aide à se constituer des réserves pour partir dans le sud. Il faut être attentif, parce que nos mangeoires et un attroupement d'oiseaux, ça peut attirer d'autres espèces d'oiseaux. Et là, des fois, on peut voir des oiseaux rares. Comme par exemple, depuis quelques jours, je sais que les amis voisins voient des bruants fauves à leur mangeoire. Ça, c'est un très beau bruant qu'on voit seulement en migration. Alors là, c'est dans sa période migratoire et il vient aux mangeoires, lui aussi. Ça fait des belles observations à vivre pour toute la famille même.
Puis il faut savoir aussi, il y a des oiseaux, en fait, qui descendent dans les régions plus au sud du Québec seulement lorsqu'il y a des mauvaises années en forêt boréale. Puis je sais qu'en ce moment, dans le sud du Québec, dans le sud de l'Ontario, il y a beaucoup, beaucoup de gros becs errants. En tout cas, c'est une bonne année de ce qu'on appelle une éruption. Donc, il y a aussi ces oiseaux-là qui peuvent être assez intéressants, là, donc qui ne vont pas nécessairement venir tous les hivers, mais des fois qu'ils vont passer. Là. Je ne sais pas s'ils se rendent jusqu'à Lennoxville là, cette année, mais je sais qu'il y a des régions, en tout cas, là, dans la Naudière ou dans l'est du Québec, qui ont pas mal de gros becs errants là, en ce moment.
Oui, c'est ça que j'ai remarqué. Bien, ce que je suggère à ceux qui sont peut-être un peu plus au sud et qui n'en ont pas encore vu à leur mangeoire, ce qui fonctionnait bien, moi, dans le temps, on avait beaucoup de gros becs errants. Ceux-ci aiment beaucoup se nourrir dans un plateau, c'est-à-dire un grand plateau, si possible avec un toit pour protéger la nourriture. Et à ce moment-là, ils sont souvent en grosse gang, eux autres, en gros groupe, puis ils aiment beaucoup se regrouper. Fait que si on installe un plateau comme ça, j'ai bien l'impression que s'il y en a dans la région, ça va les attirer.
Écoute, Camille, merci beaucoup. J'espère que tout le monde va avoir apprécié ces conseils-là. Et puis, au plaisir de se retrouver pour une prochaine chronique.
Oui, merci. À la prochaine.
C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Je vous rappelle qu'au sujet des mangeoires pour les oiseaux, vous pouvez toujours consulter les chroniques côté cour, côté jardin que Camille écrit dans la revue Québec Oiseaux. D'ailleurs, les anciennes éditions de la revue sont disponibles aussi sur Internet sur le site de Québec Oiseaux, où elle a à plusieurs reprises abordé différents sujets reliés au fait de nourrir les oiseaux chez soi. En réponse au Vendredi Faux et au Cyber Lundi, le milieu caritatif organise depuis quelques années le mouvement Mardi je donne afin d'amasser des dons pour soutenir différentes causes. Les ornithologues ont été vraiment très généreux cette année et Québec Oiseau tient à les remercier. En tenant en compte le programme d'appariement, placement, sport et loisirs, c'est plus de 7 000 $ qui aura été amassé cette année, en une seule journée, pour soutenir la mission de Québec Oiseau. Même si cet événement est derrière nous, les ornithologues peuvent toujours continuer à soutenir Québec Oiseau en faisant un don sur le site web. Québec Oiseau et le scientifique en chef du Canada organisent cette année le Rallye des oiseaux, une activité d'initiation à l'observation des oiseaux qui s'adresse aux jeunes de 7 à 17 ans et qui aura lieu du 10 décembre au 10 janvier. Les jeunes et leurs parents pourront trouver sur le site de Québec Oiseau, sous l'onglet « Événements », plusieurs outils pour les aider à identifier les oiseaux qu'ils trouveront, dont des planches d'identification. Des prix seront tirés parmi tous les jeunes qui nous auront fait part de leurs observations en remplissant le formulaire qui se trouve aussi sur le site web. Une activité qui peut s'ajouter à votre arsenal d'idées pour occuper les enfants qui auront des vacances un peu plus longues cette année. Finalement, alors qu'on approche la fin du dernier épisode de l'année 2020, je m'en voudrais de pas remercier les gens qui m'ont aidé depuis le début de cette aventure à produire cette balado-diffusion. Comme vous pouvez vous imaginer, les circonstances dans lesquelles on a eu à produire la balado ont été un peu différentes de ce qu'on imaginait quand on a commencé à monter le projet vers la fin de l'année 2019. Mais on a finalement réussi à arriver à cette cadence-là d'un épisode mensuel autour du 10 du mois qu'on espère vraiment pouvoir garder à partir de maintenant. Un gros merci donc à Jean-Sébastien Guénette, Marie-Hélène Haché, Yves Eugautier, Nata Huot et Michel Préville pour leur rétroaction et leurs conseils. On termine en vous souhaitant à tous un joyeux temps des fêtes et on se retrouve tous en 2021 pour d'autres épisodes.